Nous abordons maintenant la question de la résolution du contrat et pour en traiter, je retrouve Maurice Bensadoun. Bonjour Maurice.
Bonjour monsieur le professeur.
Alors, pardon, monsieur le directeur juridique.
Non.
Donc, nous allons parler de cette question importante puisque la résolution du contrat a été traitée dans le Code civil de 1804 en réalité de manière assez sommaire. On nous signalait que l'on pouvait obtenir en plus de les... Alternativement à l'exécution forcée du contrat, on pouvait obtenir la résolution du contrat, puisque rappelons que la résolution, ça veut dire qu'on demande la fin du contrat, donc le contraire de l'exécution forcée du contrat. Donc on pouvait obtenir la résolution par le juge, que le juge mette fin au contrat. Donc le juge peut mettre fin au contrat, et on avait aussi possibilité de mettre fin au contrat par une condition particulière, donc qui est en fait la clause résolutoire. On peut prévoir dans le contrat qu'une clause nous indique qu'en cas d'inexécution, le contrat prendra fin. Et puis, autre hypothèse, mais qui celle-là a été admise par la jurisprudence, eh bien, il est possible, en cas d'inexécution suffisamment grave par une partie, que l'autre partie mette fin au contrat. C'est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 1998 qui avait admis cette solution. Et donc, nous retrouvons ces différentes solutions. Nous les retrouvons à l'article 1224. Du Code civil, tel qu'il résulte donc de l'ordonnance du 10 février 2016, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Donc voilà, nous avons nos trois hypothèses qui sont consacrées à l'article 1224. Je me tourne vers vous, Maurice. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que ces trois hypothèses, finalement, sont, ont toutes une valeur égale? Est-ce que, par exemple, la clause résolutoire, pour vous, elle est systématique dans les contrats ou est-ce qu'on laisse plutôt au juge le soin de mettre fin au contrat en cas de problème?
Je dirais, bon, pour les praticiens, le but, c'est toujours de regarder devant. Et donc, toute situation qui pourrait conduire bonhomme à un retour en arrière n'est pas bien vue. J'ai eu, dans une de mes vies antérieures, à faire jouer la résolution, au sens aussi de la restitution des prestations et le retour au statu quo hanté. Ce qui peut être parfois faisable, parfois non. Mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout évident. Quand on a commencé un contrat, qu'il y a eu de tels problèmes qu'il faut tout arrêter et revenir en arrière, c'est pas très... Alors, généralement, on se méfie quand même de la clause résolutoire, à cause du retour en arrière. Autant la condition suspensive, si vous voulez, et le fait d'aller toujours devant, ça c'est quelque chose de fréquent, autant la condition résolutoire semble plutôt dangereuse. Alors, la question qui pourra se poser, de mon point de vue, c'est qu'il y a un souci d'efficacité économique. Il faut bien sortir de situations paralysantes ou pas où on est paralysé, si vous voulez. Mais ce qui pourra intervenir, et on le voit plusieurs fois dans l'ordonnance, c'est que le fait que quelqu'un demande unilatéralement au juge de résoudre le contrat, ça pourrait causer un abus. Et l'abus de droit, à ce moment-là, pourrait se tourner vers le juge.
D'accord, mais je crois comprendre quand même que, et vous me direz si vous êtes d'accord, que le fait qu'on permette, alors on a à plusieurs reprises dans les nouveaux textes des manifestations d'unilatéralisme, on fait confiance aux partis dans un but d'efficacité, on leur donne le pouvoir d'exercer un droit seul, en l'occurrence ici la possibilité de notifier une décision de résilier ou de résoudre unilatéralement le contrat, on va voir la distinction, mais en tous les cas, donc possibilité de mettre fin au contrat unilatéralement, parce que sinon, pour une entreprise, j'imagine que c'est très problématique, on a un contrat qui est mal exécuté, et puis on ne peut pas dire, parce que le contrat est encore en vigueur, même s'il est mal exécuté, on ne peut pas dire, ben moi j'arrête le contrat, enfin si on n'avait pas cette possibilité, si on veut mettre fin au contrat, il faut obtenir une décision du juge. Si on n'a pas de clause résolutoire, c'est une décision du juge. Et c'est vrai que c'est une situation difficile pour l'entreprise.
Oui, il peut y avoir une tentative de règlement amiable, on va dire. Mais bon, comme
mais
on est en situation de crise,
le
recours au juge peut être tout à fait justifié.
Voilà. Mais oui, mon point, c'est surtout que tant qu'on n'a pas cette... c'est sûr qu'on peut renégocier avec l'autre partie qui acceptera qu'on mette fin au contrat à telle condition, peut-être. Mais tant qu'on n'a pas ça, on est dans le contrat qui s'applique. Et nous décidons, alors que nous sommes déjà victimes d'une inexécution, de ne plus exécuter le contrat, et de faire comme s'il n'existait pas, nous allons nous aussi commettre une faute contractuelle, alors que là, on nous consacre cette solution qu'avait retenue la jurisprudence déjà, qui est possibilité de mettre fin unilatéralement au contrat. Et alors, l'autre question que... Enfin, je change de... d'article. Donc voilà, cette consécration, c'est l'article 1226. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Et on nous dit ensuite, la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raison qui la motive. Donc voilà notre consécration de cette jurisprudence de 1998. Question que vous évoquiez, cher Maurice, c'est la question des restitutions. Parce que effectivement, lorsqu'on met fin au contrat par la voie de la résolution, en principe, il y a remise en l'état antérieur, c'est-à-dire que ça produit à cet égard les mêmes effets qu'une annulation du contrat. On va obliger chacune des parties à rendre ce qu'elle avait reçu pour faire comme si le contrat n'avait jamais existé. Et donc, on a une distinction qui est apparue. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo, mais simplement pour évoquer cette distinction, est-ce que les restitutions sont toujours dues en cas de remise en cause du contrat? Non, quand on a cette fameuse résiliation qui est distincte de la résolution. Je vous laisse peut-être évoquer la distinction.
Oui, ça, c'était une de nos demandes, la FIE. Vous savez, chacun, on a... je dirais une checklist mentale de choses qu'on a appris, qui sont basiques, à commencer par la faculté de droit. Et on pratique beaucoup la résiliation par la résolution. Bon, en discutant l'année dernière de multiples occasions, on vous a expliqué mais que c'était la même chose. Et parfois, le juge utilisait le mot résolution pour parler de la résiliation. Alors, je dis, on va devenir fou à ce moment-là. Soit les mots ont un sens, soit ils n'en ont pas. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport au président de la République encore, où on trouve des explications, c'est que, d'abord, la clause, l'article de la clause, vous voyez la déformation, l'article 1226, pardon, n'est pas d'ordre public. Il est supplétif, y compris en cas d'urgence. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Ça nous semble important pour les praticiens.
Ça, c'est sur la possibilité de mettre fin unilatéralement au contrat.
Unilatéralement au contrat. Ensuite, le risque pour la personne qui demande, c'est il est quand même dit à ses risques et périls. Donc ça veut dire qu'il y a une analyse à faire en amont,
bien sûr,
pour savoir s'il faut se lancer vraiment là-dedans ou pas. Ça me semble très important. Ensuite, là, et on a eu gain de cause, si je puis dire, à la FIE, il y a tout un développement... qui dit que la rétroactivité et la restitution...
Voilà, c'est l'article 1229.
Voilà, est une fiction, en fait. Et que, dans la plupart des cas, on parlera effectivement de résiliation. La résiliation produit effet pour l'avenir.
Alors, ce n'est pas le texte du Code qui va parler de fiction, mais effectivement, oui. L'idée,
le rapport au président.
Voilà, c'est qu'on n'aura pas nécessairement... On va distinguer, finalement, dans les cas où... on peut maintenir le contrat partiellement exécuté, et on pense au contrat à exécution successive, un contrat d'abonnement téléphonique, par exemple, qui reçoit une exécution correcte pendant un certain temps, et bien ce contrat-là, du jour où il n'est plus correctement exécuté, on met fin au contrat, mais uniquement pour l'avenir, et on laisse la phase où il y a une bonne exécution.
Ça, c'est ce que nous appelons la résiliation.
Voilà, absolument. Ça, c'est la résiliation. Et la résolution, en revanche, on remet tout en l'état, donc on oblige chacune des parties à rendre qui le prix qu'elle a reçu, qui une indemnité compensatrice, une restitution par équivalent de la prestation qui a été faite, si on ne peut pas rendre une somme, enfin, si ce n'est pas un prix qui a été versé. Bon, eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette question, donc de la résolution, et je vous remercie, cher Maurice.
Merci.